cours de philosophie du vivant par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 26 mai 1994.
Continuons de voir comment nous pouvons découvrir la philintelligence. Comment apparaît pour nous cette opération irréductible aux autres opérations, mais qui exige par le fait même de poser une faculté, une puissance qu'on appelle le nous, qu'on appelle l'intelligence. Alors quelles sont les opérations intellectuelles avec tout ce que nous pouvons saisir par le point de vue de l'imagination? Je vous disais que c'est la représentation et la signification. Oui, ça c'est déjà un regard d'analyse à l'égard de nos opérations. L'imagination, c'est la représentation. Évidemment, toutes ces opérations, il y a une certaine compénétration. Mais quand même, on sait très bien, quand on est dans l'imaginaire, qu'on décolle et qu'on reste dans son rêve. C'est tellement agréable, ce petit cinéma non payant que nous portons en nous et qui se déroule. Et qu'on peut très bien vivre toute la journée là-dedans. On dit bonjour aux gens, mais on continue d'assister à ce petit cinéma intérieur, cette représentation de toutes les choses possibles. On nous a refusé d'aller au désert. Imaginons qu'on est au désert. Et essayons de profiter le plus possible de cette journée au désert. C'est un peu ça, vous voyez. On récupère, quoi. Et on quitte le réel pour récupérer ce qu'on ne nous a pas donné. Même pour les repas, ça peut être comme ça. Pour tout, on peut imaginer. On peut sur un coup, imaginativement. Oh, je suis, oui, je suis. À peu près, on gratte à peu près, mais non, c'est surtout on est en dehors. Et on a de la peine à coller au réel. Et dire, mais quoi, je fais ça. Je quitte telle opération pour telle autre opération. J'écoute et je suis tout entier à ce que j'entends. Alors, cette première opération que je disais, l'expérience. L'expérience nous met tout de suite dans quelque chose de très particulier. Et je veux adhérer à ce que je vois, ce que je constate. L'intuition, c'est aussi une opération qui est sui generis et qui nous apparaît comme irréductible par rapport à l'imagination. L'imagination, c'est un rêve, c'est pas l'intuition. Au point de vue esthétique, l'intuition. Au point de vue science, au point de vue, on a des intuitions, du moins normalement. Et puis, il y a cette adhésion qui suit l'expérience, qui ne suit pas nos intuitions. Nos intuitions n'impliquent pas une adhésion. C'est plus du côté vision. Mais il me semble que ce jugement d'existence dans l'expérience est très important. On regarde si la chose existe ou n'existe pas. Si le rêve est dépassé par la réalité. Ou si la réalité est beaucoup moins belle que le rêve. On aurait mieux aimé rester dans le rêve. Et cependant, on est bien obligé de reconnaître que la réalité est là. La rencontre avec telle ou telle personne nous met en présence d'un autre. C'est la présence de l'autre. Alors que dans l'imaginaire, je suis toujours avec moi-même. Et toutes les personnes imaginaires que je crée sont relatives à moi. C'est pour ça qu'elles sont si bien. Parce que c'est moi qui les crée. Tandis que la réalité me met en face de personnes que j'aimerais mieux pas voir. C'est ça l'autre. L'enfer, c'est l'autre. L'autre, c'est l'enfer. Ça, c'est quelqu'un que je n'ai pas du tout envie, qui me dérange. Parce qu'il n'est pas du tout de mon caractère, tout à fait autre chose. Il y a donc une rupture, tout en ayant une continuité, mais une rupture entre tout ce qui est l'ordre du rêve, de l'imagination et de cet point de vue intellectuel. Ce qu'il faut, je crois, au point de vue de la philosophie du vivant, c'est tout de suite remarquer que la vie de l'intelligence apparaît comme multiple et diverse à côté de ces choses premières, l'expérience d'intuition, l'adhésion au réel. Il y a des raisonnements. Il y a des raisonnements et des raisonnements divers, des raisonnements scientifiques. Et il y a aussi une recherche scientifique qui n'est pas la même chose. La recherche implique des éléments nouveaux. Et on organise ce qu'on a acquis. Il y a deux mouvements très différents. Jugement, enfin, raisonnement, qui nous permet d'aller plus loin. Une induction. Et la déduction. Un raisonnement qui monte et un raisonnement qui descend. Je crois que nous devons en premier lieu constater ça en philosophie du vivant et nous poser la question, y a-t-il quelque chose qui unit toutes ces opérations? Ou qu'est-ce qui peut unir toutes ces opérations? Parce que je ne veux pas poser une faculté propre à l'intuition, une faculté propre à l'expérience, une faculté. Est-ce qu'il y a quelque chose qui unit toutes ces opérations? Et alors ça, c'est important au point de vue de la philosophie du vivant. Ce passage qui n'est pas une induction, et qui est quand même une certaine induction, je passe de la diversité de ces expériences à un principe. Oui, qui n'est pas autre, qui est présent dans ces différentes opérations. Le passage descriptif de ces diverses opérations à la source de ces diverses opérations. Dois-je poser divers principes? Est-ce que je peux ramener ces diverses opérations à une seule source? Je crois que c'est la question immédiate après la description de cette diversité. Mais dans cette diversité, je crois qu'il faut mettre expérience, intuition, adhésion, affirmation et négation. C'est quand même important. Discernement. Il y a un discernement. Krinein, on discerne. On affirme, on dit, on rejette. Il y a un procédé de rejet. Il y a un procédé de l'intelligence qui rejette. Et c'est très important. L'intelligence n'accepte pas telle ou telle situation. Et puis alors, les raisonnements, qui est déjà très différent. C'est tout à fait différent comme attitude. Mais un raisonnement de recherche. Il y a des gens intelligents pour la recherche. Il y a des gens qui ne découvrent jamais rien dans la recherche. Mais ils sont merveilleusement capitalistes. Qui engrangent et qui mettent des liens entre tout ce qu'ils sont. Mais c'est un raisonnement beaucoup plus déductif. On organise notre vie intellectuelle. Ce que vous faites, vous entrez en philosophie, réfléchissez sur votre manière d'entrer en philosophie. Vous êtes attentif à des expériences auxquelles vous n'aviez jamais pensé. Alors l'interrogation. La question s'interroge pour chercher. Si elle n'interroge pas, elle ne cherche pas. Elle interroge. À partir de l'expérience, elle interroge. Parce que dans l'expérience, il y a des choses connues et des choses nouvelles. Et alors pourquoi ça? Et puis, vous déduisez. Vous descendez le fleuve. Vous déduisez à partir de tout ce que vous avez saisi. Vous concluez. Il y a des résultats. Tout cela implique des significations diverses. Tout cela est au-delà de tous les rêves imaginatifs, de toutes les réalités possibles. Ça touche du réel. Ça touche quelque chose de vrai. Alors qu'est-ce qui fait l'unité de toutes ces opérations? Ça, c'est le point de vue très difficile et intéressant. Les raisonnements semblent saisir une relation, une inférence. Je passe de principe, le raisonnement bête, le plus bête qui soit, et quand même qui fait partie de ma vie intellectuelle. Tout homme est menteur, Pierre est homme, donc Pierre est menteur. Vous pouvez toujours dire ça à n'importe qui, tu es un menteur. C'est dit dans l'écriture. Tout homme est menteur. Donc l'écriture fait partie de d'adage comme ça. Or Pierre est un... Bon, qu'est-ce que je sais ici là-dedans? J'ai l'expérience de Pierre. Et je l'ai pris en flagrant délit de mensonge. Du moins, je crois que c'est comme ça que ça se passe. Alors je lui dis, oui, il faut comprendre. Alors je dis, ah mais c'est pas étonnant, c'est un homme. Et tout homme est menteur. Alors on peut dire la même chose, toute femme. C'est une dernière sur tout homme, et homme contient la femme, là. C'est la même chose. Donc c'est rappeler une vérité. Et vous concluez, donc il est menteur. Et quand vous dites tu mens, vous dites mais non, mais c'est pas vrai. Mais tout homme est menteur. Donc on raisonne. Et les discussions, tout le temps, on discute tout le temps. Il y a des gens qui discutent indéfiniment, du soir au matin, du matin au soir, et qui ramènent d'autres faits pour les raisonnements davantage. On tisse, on tricote intellectuellement. Et tricoter intellectuellement, c'est ramener comme ça dans les relations. Et donc, qu'est-ce qui commande ça? C'est la relation. Mais les raisonnements, c'est pas premier. Donc, c'est pas ça qui va me faire comprendre ce qui caractérise cette nouvelle puissance vitale. Les raisonnements, c'est la mise en ordre d'un acquis. Les raisonnements, c'est la découverte de quelque chose de plus profond dans l'induction. Mais c'est toujours quand même une relation. Et la relation est seconde, n'est pas première. Alors qu'est-ce qui est avant? C'est le point de vue de l'affirmation et de la négation. Et là, l'affirmation et la négation est un phénomène très très important dans ma vie intellectuelle. Qu'est-ce qui est premier? La grave question, ça je peux me poser cette question en philosophie du vivant. Et en philosophie du vivant, je suis bien obligé de constater que c'est l'affirmation qui est première. La négation vient après. Si je n'avais jamais affirmé, est-ce que je nierais? C'est que j'entends quelqu'un qui affirme quelque chose d'une façon un peu trop rapide. Tout homme est menteur. Mais non, tout homme n'est pas menteur. Il y a tel individu. Vous voyez, je nie certaines affirmations trop hâtives. Évidemment, tout homme est menteur, c'est dit dans la révélation. Alors, si je suis croyant, je dis attention, attention. Et je ne dis pas trop vite. Mais je peux dire, c'est compris de telle façon. C'est dit dans tel contexte. Faut pas trop affirmer ça de façon absolue. La négation apparaît très vite. Et la négation est au-delà du raisonnement. Et la négation, c'est moi-même qui l'a fait. La négation est le fruit, et ça je crois qu'il faudrait développer beaucoup la négation aujourd'hui au point de vue. Comment se fait-il que les psychologues discernent un âge où l'enfant qui grandit nie tout le temps? Il y a l'âge de la négation. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ils le disent. Est-ce que vous vous rappelez dans votre vie que vous avez eu un âge de la négation? Vous niez tout le temps. Vous n'aviez pas envie du tout de dire oui. Vous aviez envie de dire non. Et quelquefois, ça reste très longtemps, cet âge. Quelqu'un qui vous dit ça, pas envie du tout de dire oui. Parce que quand vous dites oui, vous vous engagez. Quand vous dites non, vous vous engagez pas. Est-ce que tu auras le temps de faire ça aujourd'hui? Ah non, 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 je suis très pris. Vous voyez? Spontanément, vous dites, pour vous libérer un peu. Autrement, vous affirmez trop. Et à la fin de la journée, ça va pas. Il y en a la moitié qui devait venir. Et puis ça... Alors, au bout d'un certain temps, il vaut mieux nier. Il y a moins de conséquences. Parce que s'il n'y a personne là, tant pis. J'arriverai toujours à me débrouiller. Hein. Mais c'est curieux, la négation et l'affirmation, est-ce que c'est la même faculté? Est-ce qu'il y a en moi un daimon intérieur qui me fait toujours nier? Et qu'il y a en moi, au contraire, un Dieu qui me fait dire toujours oui, oui, oui? C'est vrai, il y a des personnes auxquelles spontanément qui disent non. Il y a des personnes qui spontanément disent oui. Qu'est-ce que ça correspond? Est-ce que c'est deux facultés? Alors, on doit creuser la diversité des négations, la diversité des affirmations. Au fond, est-ce que le jugement le plus radical au point de vue réflexion sur la philosophie de la vie, est-ce que c'est pas ce jugement le plus simple? Tous les autres s'ajoutent. Ceci est. Je crois qu'en philosophie du vivant, je dois découvrir que le jugement d'existence, ceci est, est le plus simple, le plus primitif, celui qui, d'une certaine manière, me révèle le mieux ce que j'appelle ma pensée, ce que j'appelle mon intelligence. Si c'est vraiment le jugement le plus simple, il est présent partout. Et peut-être projeté. Si je nie, ça prouve que je suis capable d'affirmer. Or, l'affirmation, dans ce cas-là, tout à fait élémentaire, c'est ce jugement d'existence, ceci est. Ceci n'est pas. Je m'écarte du ceci est en disant ceci n'est pas. Et en disant ceci n'est pas, je laisse ouvert la porte à tous les possibles. Tandis que quand je dis ceci est, il n'y a plus de possible. Hein, voyez, hein, comme la négation ouvre la porte au possible. Et par le fait même, quand je suis dans l'ordre du possible, l'imaginaire constamment s'engouffre. Je peux très bien ne pas tomber dans l'imaginaire, mais très facilement, dès que je suis dans l'ordre du possible. Il faudra distinguer des possibles imaginaires et des possibles réels. Hein, des possibles réels. Des possibles par rapport au réel. Et des possibles imaginaires qui sont purement imaginaires. Vous voyez, au fond, plus je creuse, plus je vois que tout ça se tient. Et que affirmation et négation est quand même essentielle dans la structure de mon intelligence. philosophie du vivant, c'est la structure élémentaire. Affirmation et négation. Parce que ça engendre tout de suite deux perspectives totalement différentes. Point de vue d'intelligence. Celui qui nie toujours risque, au bout d'un certain temps, de ne plus avoir aucun contact avec le réel. Celui qui affirme, au contraire, est toujours en contact avec le réel. Donc, la négation me permet de prendre des distances et de laisser s'engouffrer le primat de la subjectivité. Parce que le primat de la subjectivité, c'est la possibilité en moi de créer des réalités possibles. Alors que l'affirmation du réel fait que j'adhère. Et quand j'y adhère, c'est le silence. La négation engendre l'agitation. Puisqu'il n'y a plus rien de stable. Il n'y a plus rien sur lequel je peux me reposer. Tandis qu'au contraire, l'affirmation engendre le silence, ceci est. Alors là, il y a quelque chose d'extrêmement important à bien saisir. Je vois donc qu'au fond, la négation s'ajoute subjectivement. C'est l'être de raison. C'est moi qui fais une négation. C'est pas la réalité. Donc, c'est pas par la négation que je veux savoir ce que c'est que l'intelligence. Ah, ça c'est très important, au point de vue de la philosophie du vivant. Ce n'est pas par la négation. La négation est quelque chose qui vient de moi, mais qui m'écarte du réel. Ceci n'est pas. Donc, va t'en promener. Ceci n'est pas. Vous voyez, la négation ouvre tout le domaine des possibles. S'il n'y avait pas la négation, y aurait-il des possibles? Posez-vous la question. C'est intéressant de voir comment la négation est la condition sine qua non des possibles. Et ce qui peut comprendre pourquoi ça nous attire tant. Parce que nous sommes capables, à ce moment-là, de nous orienter là où on veut. Le possible, je le mesure. L'affirmation, je suis mesuré. J'aime beaucoup mieux mesurer qu'être mesuré. Dans l'ordre affectif, j'aime mieux être aimé qu'aimé. Subjectivement, c'est comme ça. Être aimé, c'est le ronron du chat au feu. Je suis très aimé. C'est merveilleux. J'aime, ça m'engage. Être aimé ne m'engage pas. Les possibles ne m'engagent pas. Et donc je peux très bien, à ce moment-là, rayonner dans le domaine des possibles. Donc, c'est bien l'affirmation qui seule va pouvoir caractériser ce qu'est l'intelligence. Et comme c'est le jugement d'existence qui est premier, je peux dire ce jugement d'existence, ceci est, qui me montre ce qui détermine l'intelligence et ce qui me permet de poser une puissance capable d'affirmer ceci est. Constate l'affirmation et je pose une puissance capable d'affirmer pour savoir ce que c'est que cette puissance. Une fois que j'ai découvert que tout reposait sur le jugement d'existence, point de vue vie d'intelligence, que le jugement d'existence est antérieur, fondamental, et que le jugement négatif est secondaire, mais il a l'immense avantage de m'ouvrir un horizon infini. Alors, il faudra essayer de comprendre comment la puissance que j'affirme est capable d'affirmer et de nier, et que c'est l'affirmation qu'elle fait sur la réalité, dans ce qu'elle a de plus simple, qui va me permettre de comprendre ce qu'elle est. Quelle est cette puissance qui me permet de dire ceci est? dois être capable de nier. Alors, c'est quand même ça que je constate. Et ça, je peux le constater. Je veux montrer à tout le monde que je peux constater ça. Si on est quelqu'un qui n'a pas d'a priori, quelqu'un qui n'a pas d'a priori, il est obligé de reconnaître que la négation joue un rôle énorme dans ma vie intellectuelle. Et que dans notre monde d'aujourd'hui, la négation prime. Ça caractérise notre monde moderne. Et ça prend une place pour nous énorme. Tout domaine des possibles. Et tout domaine des possibles reste un domaine de l'intelligence. C'est pas imaginatif. Il y a le possible imaginatif, mais il y a le possible de la réalité relative à l'être. D'existence qui caractérise la vie de mon intelligence. Je peux dire que par ce jugement d'existence, je dis l'être à ceci. C'est donc ceci est. C'est donc l'être qui est ce que l'intelligence saisit de la manière la plus, du moins ce que cette faculté que je cherche saisit d'une façon la plus forte. Ceci est. Et ce n'est pas ceci qui est premier, mais c'est « est ». Pourquoi ? Parce que, en réalité, pour le langage, « être » est relatif à « ceci ». Mais ça, c'est le langage. Dans la réalité, ce n'est pas l'être relatif au « ceci », mais c'est le « ceci » relatif à l'être. Et ça, je peux le voir tout de suite. Je peux voir même au niveau philosophique du vivant. Un peu métaphysique, c'est sûr, je reprendrai le même raisonnement, mais différemment au niveau de l'être. Ici, je prends au niveau de la vie. Or, au niveau de la vie, je suis bien obligé de reconnaître que être a une extension beaucoup plus grande. Être, en le prenant au sens le plus classique, une extension beaucoup plus grande que le ceci. Bien que être implique le ceci, l'être a une extension beaucoup plus grande. Puisque tout est. Tandis que tout n'est pas ceci. Ceci imprime, implique un nom. Et le verbe alors. Et il est. Donc, je vois que l'extension du ceci demeure. L'extension du ceci me manifeste qu'il y a une faculté capable de recevoir ce qui est, capable de l'assimiler et de le proclamer et de l'affirmer et en même temps d'être capable d'affirmer qu'il peut très bien se faire qu'il y a d'autres ceci qui ne sont pas, que mon intelligence en affirmant touche le singulier et que mon intelligence en niant s'évade du singulier et entre dans le possible qui n'est jamais singulier et qui est toujours quelque chose qui peut être, qui peut exister mais qui n'existe pas actuellement. Je suis donc là à affirmer qu'il y a une faculté qui est ouverte à l'être, qui est capable de recevoir la réalité en tant qu'elle existe, capable de la recevoir, et capable de ne pas la modifier, de voir telle qu'elle est. C'est la fameuse affirmation d'Aristote que l'activité de l'intelligence, dans ce qu'elle a de tout à fait fondamental, c'est l'hypolepsis. Il y a quelque chose d'analogue entre l'activité de l'intelligence et l'activité des sens. Les sens reçoivent, l'intelligence reçoit. Tous les deux sont en attente de la réalité qui vient déterminer. Et donc, il faut découvrir dans cette activité de l'intelligence qui reçoit la réalité existante deux moments. La saisie du ceci et la saisie de l'être. La saisie du ceci, c'est cette activité première de l'intelligence qui aime d'appréhender et de saisir les déterminations des réalités. Et la détermination fondamentale de la réalité dans le singulier. Le singulier est un ceci, et c'est même le ceci par excellence. C'est le ceci fondamental. Le possible n'est pas un ceci. Ou c'est un ceci très restreint. Ceci est possible. Et donc le possible est un ceci, mais restreint. C'est quelque chose qui peut exister. C'est quelque chose qui peut être. Et qui n'est pas au moment, je le dis. Donc le possible est un ceci restreint. Il y a un point d'interrogation. Je ne peux pas affirmer tout de suite qu'il existe. Donc il est en état d'attente. Je peux donc dire qu'il y a une première activité de l'intelligence qui touche la réalité singulière. Et je suis capable de qualifier cette réalité première, ceci, en disant ceci est. Et par là, mon intelligence se adhère à la réalité qui existe. Et l'intelligence peut alors se confronter à cette réalité en disant ce que je dis, ceci est vrai. Vous voyez, je saisis là trois moments très importants de ma vie intellectuelle. Le ceci, le est, et le ceci est vrai. Et est-ce que ces trois moments de ma vie intellectuelle peuvent se ramener à quelque chose? Le ceci, c'est la détermination. C'est donc ce qu'il y a de premier. Ceci est, implique l'intelligence qui est capable, au-delà du ceci, de rejoindre la réalité singulière qui existe. Ceci est. Et au-delà de cette réalité singulière commune à tout, d'affirmer une réalité qui est extérieure à moi. Mais ceci n'est pas nécessairement extérieur à moi. Tandis que quand je dis ceci, je veux l'affirmer comme extérieur à moi. C'est donc cela qui caractérise ma vie intellectuelle. Au-delà et distincte de la réalité existante autour de moi, ou en moi. C'est donc bien l'être qui me permet de dire que cette faculté, que j'affirme cette faculté de vie, que j'affirme de vie spirituelle, que j'affirme, est faite pour adhérer à l'être. Et en adhérant, le séparer du non-être et reconnaître qu'il est. Mais je vois tout de suite, à l'intérieur même de ma vie intellectuelle, trois moments qui peuvent être presque simultanément l'assimilation de toute détermination, de toute quiddité, l'adhésion à cette réalité qui existe ou qui n'existe pas, l'adhésion ou le rejet. Il y a donc toujours trois moments. La structure vitale de ma vie intellectuelle implique cette assimilation, implique cette adhésion ou ce rejet. Alors on peut dire deux ou trois. Je dis le rejet parce que le rejet est quand même quelque chose d'original. De dire ceci n'est pas, n'est pas commandé par ceci. Donc c'est bien quelque chose d'original. On peut dire qu'au point de vue vital, il y a trois aspects. Trois aspects qui sont présents dans toute ma vie intellectuelle, dans tous mes raisonnements, dans tous mes jugements, dans tout, et toujours ces trois moments. C'est très étonnant de voir ça. Voir que cette vie spirituelle qui implique une faculté propre qu'on appelle le nous, que cette vie implique ces trois aspects qui sont très différents les uns des autres. Deux structures, l'autre ne structure pas, mais est là pour défendre, pour mieux limiter, pour mieux déterminer. Ceci n'est pas. Ça ne structure pas, la négation ne structure pas. C'est pour ça que quand la négation est première, on supprime la structure de l'intelligence. Mais l'intelligence, à ce moment-là, ne peut plus avoir d'autonomie. Elle est donc uniquement le reflet de la réalité. Et elle ne peut être que le reflet de la réalité. Tandis qu'au contraire, si je vois ces trois moments, je peux dire que mon intelligence est d'une certaine manière structurée par un aspect d'assimilation, par un aspect d'adhésion, par un aspect de rejet qui, lui, est en plus. Voilà, je crois, ce que nous devons dire pour découvrir cette faculté particulière, cette puissance particulière.
Possibilité d'être
parler, que je puis employer un autre ordre. Je peux considérer que la première chose que j'ai instinctivement, c'est de rejeter un corps étranger. Cela est important et me met dans une voie toute différente. Parce que la négation va appeler l'affirmation et l'affirmation va s'achever en assimilation. Alors, je serais très curieux de voir que cette forme de vile intelligence fait que est ordonné à l'assimilation, on dira à la synthèse. Parce que l'assimilation implique une synthèse. C'est plus qu'une synthèse, mais on peut très bien l'exprimer comme cela. Et ceci mettant la négation en premier lieu, pour laisser tomber ce qui ne m'intéresse pas, de là, l'affirmation apparaît dialectiquement, et l'affirmation réclame l'assimilation. Donc le ceci devient ultime, l'assimilation du ceci devient ultime. Ce n'est plus affirmation et négation qui est important, je le dépasse par le ceci, par l'assimilation. Il y a ces deux grandes formes de vie intellectuelle. Y a-t-il une troisième? Ce sera assez normal qu'il y en ait trois, puisqu'il y a trois éléments. Donc il y a trois ordres différents. Mais comme dans la vie, les choses se tiennent, ces trois éléments se tiennent, je comprends très bien comment on peut, en raison du milieu dans lequel on est, arriver à ordonner différemment ces trois. Et voyez que le réalisme consiste à mettre en tout premier cette distinction de l'intelligence entre affirmation et négation. Et j'analyse l'affirmation en voyant que l'affirmation implique une assimilation. Mais c'est l'affirmation qui domine. Et là, je n'ai plus une démarche dialectique, puisque l'affirmation est première et que la négation est simplement pour mettre en lumière l'affirmation. Tandis que de l'autre côté, j'ai une démarche dialectique.